cuillère de bois.
Pauline Guillou, 8h10 en temps universel, tout de suite sur RFI. Appel sur l'actualité avec vous, Juan Gomez.
Et les auditeurs de RFI, merci Paul Lonsin-Spinelli. On revient dans tout juste 30 secondes à la radio et en vidéo sur YouTube.
Quelle distance vous sépare des 49 journalistes actuellement détenus en Russie? 30 000 ou 5 000 km?
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Dimanche 15 février de 8h à 19h. Pousse la porte de Radio G à Angers. Tu t'es déjà demandé comment se fabrique une émission de radio? Viens découvrir l'envers du décor. Visite les studios et assiste à des émissions en direct et échange avec les animateurs et bénévoles de Radio G.
T'es curieux, passionné ou juste un simple auditeur? Radio G t'ouvre grand ses portes. Entrée libre et gratuite, dimanche 15 février de 8h à 19h, 3 rue de la Rame, Angers.
Plus d'informations sur radio-g.fr.
Toutes et à tous et bienvenue dans Ondes Positives, votre émission dédiée à la santé sexuelle, à la prévention et à la vie affective sur Radio G. Moi c'est Alima.
Et moi c'est Florian.
Et vous pouvez nous écouter un vendredi sur deux à 9h10 à Angers sur le 101.5 FM ou en DAB+. Et depuis partout dans le monde sur le site radio-g.fr en direct ou en podcast. Dans Ondes Positives, on vous donne plein d'infos, plein d'astuces pour vous aider à prendre soin de votre corps et de votre intimité. Et tout ça, sans jugement, sans tabou et de façon positive. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous avions envie de faire le point sur les traitements et la recherche concernant le VIH. Alors pour le grand public, ce sont des notions souvent un peu floues. Par exemple, est-ce que les personnes séropositives prennent toujours la trithérapie? Où en est la recherche sur le vaccin? Mais pour les personnes vivant avec le VIH, par contre, c'est beaucoup plus concret, car cela fait partie de leur quotidien. Mais que vous viviez avec le VIH ou pas, être bien informé, c'est la clé pour prendre soin de sa santé. Alors aujourd'hui, la science avance et propose de plus en plus de nouvelles molécules qui composent les médicaments, mais aussi de nouvelles manières de prendre les traitements. Et tout ça, c'est dans le but de rendre les traitements moins contraignants et de trouver les meilleures combinaisons pour une vie plus facile avec le VIH et les risques. Mais alors pas de panique, hein. On va pas vous donner toute la liste des molécules, etc. Nous, juste, on veut revenir sur les faits marquants de ces dernières années en termes de traitement des personnes séropositives, mais aussi les traitements préventifs au VIH. Et ça, c'est tout de suite dans Ondes Positives.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, une actualité à souligner, alors on n'en avait pas encore parlé, mais le 12 décembre dernier, la ville d'Angers a reçu le label « Ville engagée contre le sida ». Alors en fait, il s'agit d'un label qui a été créé en 2001 par l'association « Les élus locaux engagés contre le sida », qui est en fait emmené et présidé par Jean-Luc Romero-Michel, donc qui est notamment connu pour être le premier rom politique à avoir révélé sa séropositivité au VIH en France. Et donc ce label affiche l'engagement de la ville en matière de lutte contre le VIH. Et en effet, la ville d'Angers subventionne depuis de nombreuses années les associations œuvrant contre le sida, que ce soit Aide ou encore par l'intermédiaire du service de la ville, les Noxambules, que vous avez peut-être déjà croisé dans les rues d'Angers. Elle aide aussi les associations engagées dans la lutte contre les discriminations, malgré les contraintes budgétaires et les critiques de certains. Donc, au-delà du symbole du label « Ville engagée contre le sida », il y a un soutien et des actions concrètes derrière.
Et maintenant, place aux avancées thérapeutiques. Alors, on va vous aider à y voir plus clair sur le sujet. Donc, vous vous demandez peut-être, on en parlait tout à l'heure, si un vaccin contre le VIH était prêt à voir le jour. Mais ça, on en reparlera dans la seconde partie de l'émission, car c'est pas si simple. Et puis, de toute façon, c'est pas la seule solution pour mettre fin à l'épidémie de VIH. En fait, les traitements ont tellement évolué qu'ils sont désormais un outil essentiel pour atteindre cet objectif. Et donc, cette évolution des traitements au VIH ne cesse de se poursuivre avec un objectif en tête, permettre aux personnes vivant avec le VIH de mieux vivre et de vivre aussi longtemps qu'une personne séronégative. Et alors, bien sûr, il y a cet objectif aussi de permettre aux personnes de rester en charge virale indétectable pour ne pas transmettre le VIH.
Et rappelons-le encore une fois, une personne séropositive sous traitement et en charge virale indétectable ne transmet pas le VIH à son partenaire. Même dans un rapport sexuel sans préservatif, le traitement est déjà une protection en soi.
Exactement. Et l'amélioration de la qualité de vie des personnes, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que depuis le début des traitements VIH, la recherche, justement, elle a cherché à réduire le nombre de comprimés qu'on prend par jour, par exemple, et les effets indésirables. Donc, pourquoi, comment ça a commencé? Je vous fais un petit historique. Donc, le premier traitement qui est apparu, c'était en 1987. C'était le traitement qu'on appelait l'AZT. Alors, il avait des résultats encourageants, mais assez limités. Et surtout, il y avait beaucoup d'effets secondaires et des effets secondaires importants. Alors, par exemple, vous pouvez avoir une anomalie de la répartition des graisses dans le corps. Par exemple, on pouvait avoir les joues creusées, on pouvait avoir les jambes maigres. Mais par contre, avoir une espèce de ce qu'on appelait, une, entre guillemets, une bosse de bison au-dessus des épaules, à la base du cou. Et puis, on pouvait aussi avoir des troubles lipidiques responsables d'infarctus et d'AVC. Et puis, en 1996, là, c'est là que les trithérapies ont vu le jour. Et là, il y avait des résultats beaucoup plus importants. Et puis, le nombre de comprimés, et par contre, était aussi important. Fallait parfois prendre des dizaines de comprimés par jour. Donc, c'était très contraignant. Et ça limitait ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, l'observance des personnes. Alors, c'est quoi, quand on parle d'observance, c'est quoi exactement?
Alors, l'observance, c'est la capacité des personnes à prendre correctement le traitement.
Voilà, à observer son traitement, voilà, de le prendre de manière régulière, par exemple, s'il faut le prendre tous les jours. Les progrès, par contre, ils ont vraiment commencé à ce niveau-là dans les années 2000. C'est là qu'on a vu arriver ce qu'on appelle les monoprises, c'est-à-dire un seul comprimé par jour qui regroupe une association de molécules qui sont nécessaires au traitement. Donc là, on parle de trithérapie, mais ça peut être les trois molécules, enfin voilà, plusieurs molécules dans un seul comprimé. Et puis il y avait aussi moins d'effets secondaires. Donc là, c'est vraiment une vraie révolution. C'est vraiment un soulagement pour les personnes vivant avec le VIH. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Allô Docteur sur France 5 avec le témoignage de Tim. Alors lui, il a connu toutes ces évolutions thérapeutiques justement depuis l'époque de l'AZT.
Tim a tout connu. Entre 10 et 15 médicaments par jour, l'AZT, puis en 96 les premières trithérapies. Aujourd'hui, les trois molécules sont contenues dans ce cachet à prendre chaque jour, ce qui lui demande une petite organisation.
Quand on part en voyage, il faut compter les comprimés, quand on s'assurer qu'on va les avoir, il faut s'assurer que la pharmacie les a, en général elle les a. Voilà, en fait tout s'arrange toujours.
Et d'ailleurs, la réduction du nombre de comprimés, entre autres choses, ça a un nom, en fait, dans le jargon un peu VIH et de la lutte contre le VIH, on appelle ça, et dans d'autres pathologies aussi, certainement, du coup, on appelle ça l'allègement thérapeutique.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et cet allègement thérapeutique, ça s'arrête plus, justement. Puisqu'il y a certains médecins qui préconisent de prendre le traitement 4 à 5 jours par semaine, et non plus 7 jours. Avec exactement la même efficacité pour la grande majorité des personnes. Alors le résultat, c'est un vrai bénéfice pour le corps et c'est aussi une pause bienvenue dans la routine quotidienne. Et c'est justement ce que explique Vincent Leclerc, qui vit avec le VIH et qui est militant de l'association AIDE, dans son témoignage aux médias Le Blob en 2019. Je vous propose d'écouter ça.
Il y a plusieurs bénéfices à l'allègement thérapeutique. Il y a un bénéfice pour les personnes en termes de qualité de vie, mais il y a aussi un bénéfice sur le corps, parce qu'on est exposé sur le long terme à des molécules qui sont quand même un peu toxiques, qui ont un impact sur les organes, sur le corps, sur la fatigue, et pour des personnes qui vont être amenées à prendre un traitement toute leur vie, de réduire cette exposition à des produits un peu toxiques, c'est ce qu'on appelle de l'épargne de toxicité, et c'est ça de gagner aussi sur le corps. Ça fait depuis 2011 que je prends un traitement 7 jours par semaine. Moi, j'ai un traitement qu'il faut prendre pendant le repas. Et du coup, c'est assez contraignant parce que j'ai jamais un repas à heure fixe. Donc pour moi, tous les jours, je dois réfléchir à quel moment je vais prendre mon traitement, à quelle heure, et de bien penser à l'avoir avec moi pour éviter de sauter des prises. Si je peux éviter d'avoir cette logistique tous les week-ends, par exemple, c'est pour moi assez reposant.
Voilà, et son témoignage, il est à l'image d'une étude qui a été menée en 2020, qui est l'étude de Los Rios, qui est parue dans le journal AIDS and Behaviors, qui montre que 33% des personnes vivant avec le VIH ont le sentiment d'être stressées ou anxieuses à l'idée de prendre des médicaments contre le VIH tous les jours. Il y en a 29% qui ont perçu la prise de médicaments contre le VIH comme limitant leur vie quotidienne, et 58% qui ont eu l'impression que cette prise quotidienne était en fait un rappel quotidien du statut de séropositif. L'allègement thérapeutique, ça prend tout son sens quand on sait que 58% des personnes interrogées dans l'étude ont déjà déguisé ou caché leurs médicaments contre le VIH pour éviter d'être stigmatisées, et que 38% pensent que le fait d'avoir à prendre des comprimés augmente la probabilité de devoir révéler leur statut. Donc c'est vraiment un frein à la bonne observance du traitement VIH.
D'où le fait de continuer à chercher les meilleures solutions de traitement, adaptées aux personnes et à leur vie, en conditions réelles.
Voilà. Alors plusieurs études ont été menées par l'ANRS depuis 2014, justement dans cet objectif de démontrer l'efficacité de la prise à 4 jours sur 7. Alors il y a notamment eu l'essai Quatuor qui date de 2020, et je vous propose d'entendre le professeur Pierre de Truchy, infectiologue, qui a mené cette enquête Quatuor.
À la suite de l'essai pilote qui s'appelait l'essai 4D, qui démontrait que c'était faisable, hein, que cette stratégie 4 jours sur 7 était faisable, ça nous a permis de monter l'essai Quatuor, qui a été soutenu par l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, et qui a inclus un nombre élevé de patients, 640 patients, dans une cinquantaine de centres cliniques en France, avec deux groupes de patients, la moitié des patients qui passaient à 4 jours sur 7, et la moitié qui restaient pendant un an à 7 jours sur 7, avant de passer à leur tour à 4 jours sur 7. Ce qui était intéressant dans cet essai Quatuor, en plus, c'est que on a inclus des patients qui avaient toutes les trithérapies différentes actuelles, hein, c'est-à-dire que c'est une stratégie presque universelle, puisqu'elle s'intéresse à n'importe quelle trithérapie actuellement prise. Ce qui apparaît comme résultat principal, c'est que il y a ce qu'on appelle une non-infériorité de résultats dans les deux bras, c'est-à-dire que la stratégie 4 jours sur 7 est aussi efficace à un an que la stratégie jusqu'ici reconnue, 7 jours sur 7, comme elle est préconisée dans l'ensemble du monde. Il y a très très peu d'échappements virologiques. Il y en a autant dans le bras 7 jours sur 7 que dans le bras 4 jours sur 7. Hein. Dans les deux bras, c'est moins de 2% d'échappements virologiques au bout d'un an.
Alors bien sûr, il y a des critères pour entrer dans ces études, et notamment de ne pas avoir de résistance. Et la prise de traitement en schéma 4 jours sur 7, ça doit absolument être suivi par un médecin. Donc si vous êtes intéressé, il faut en parler à votre infectiologue, et surtout, ne le faites pas seul. Vraiment, demandez toujours l'avis de votre infectiologue. C'est important.
Et il est temps maintenant de faire une petite pause musicale. Et à l'image, je crois que tu voulais nous proposer une chanson. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, en effet. Alors, il s'agit d'une chanson du groupe de rock alternatif libanais Mashrou Leila. Alors, ce groupe s'est fait connaître dans les années 2010, d'abord au Moyen-Orient, et puis ensuite partout dans le monde. Et leurs chansons parlent de sujets aussi variés que la société libanaise, la politique, la religion ou la sexualité. Et ils en parlent souvent de manière assez critique et satirique. Leurs chansons, elles abordent par exemple de manière très ouverte la question des relations homosexuelles ou des mariages interreligieux. Et Ahmed Sino, le leader du groupe, est ouvertement homosexuel. Il a plusieurs fois fait la couverture de magazines LGBT. Il a arboré le drapeau arc-en-ciel sur scène, par exemple. Mais malheureusement, le groupe a subi de nombreuses attaques et de nombreuses menaces. Et notamment, ce qui s'est passé en 2017, c'est que lors d'un concert de Mashrou Leila en Égypte, il y a plusieurs personnes du public qui ont été arrêtées et certaines condamnées pour avoir simplement déployé un drapeau arc-en-ciel pendant le concert. Et parmi elles, il y avait l'activiste queer Sarah Eghazi, qui fut gravement torturée en prison pendant plusieurs mois et qui souffra à la suite de ça d'un syndrome de stress post-traumatique avant de se donner la mort en 2020. Et pour toutes ces raisons, en 2022, le groupe a décidé d'annoncer la fin de Mashrou Leila. Alors la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, elle s'appelle Im El Jacket et elle date de 2011. Et ça parle d'un homme qui s'adresse à une jeune femme et qui s'excuse auprès d'elle de l'avoir prise pour un homme parce qu'elle avait les cheveux courts, elle portait des vêtements masculins et elle marchait seule la nuit dans la rue. Si vous ne parlez pas arabe, vous pourrez peut-être quand même reconnaître quelques mots en français dans les paroles. Et donc je vous propose d'écouter Im El Jacket de Mashrou Leila.
شكت والبنطلون شفتك واقفة فوق البلكون خمنتك شبهة مادموزيل توخزيني بردون شفتك لابسة بيري وكاسكت طلعه بالسوق بتقيب البيت من غير بودرة من غير طواليت وصى شعرك الكرسون خمنتك شبية مدموزيل لتوخزيني بردون بردون
C'était donc Im El Jacket de Mashrou Leila et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Ondes Positives. Nous parlons aujourd'hui des avancées thérapeutiques en matière de traitement contre le VIH. Alors, nous avons vu dans la première partie d'émission que la science fait des progrès énormes pour améliorer toujours plus la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH.
Oui, et d'ailleurs Florian, aujourd'hui, on en est où ?
Eh bien maintenant, on va encore plus loin, puisque des études récentes montrent que certaines combinaisons de molécules peuvent être prises en une seule prise par semaine. Et encore plus spectaculaire, à la fin de l'année 2021, sont arrivés sur le marché ce qu'on appelle les traitements injectables à longue durée d'action. Ils étaient très attendus par les personnes vivant avec le VIH.
Alors qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors en fait, le traitement passe sous la forme injectable. avec donc des injections régulières, d'abord tous les mois, puis tous les deux mois. Et les molécules agissent sur la durée dans l'organisme pour contrôler le virus et la charge virale. Alors on peut citer la combinaison de cabotegravir et de la rilpivirine, qui a été la première à être autorisée en France. Ce traitement injectable n'est permis que pour les personnes déjà sous traitement.
Et donc voici par exemple le témoignage de Michael, qui bénéficie justement de ce traitement à l'hôpital Saint-Louis à Paris, donc à raison d'une injection tous les deux mois. Et ensuite, vous entendrez Florence Thune, qui est la directrice générale de SIDAction, et c'est encore une fois un extrait de l'émission Allô Docteur.
Les premières injections, oui, au début ça faisait un petit peu mal, mais après on s'habitue. Hein. Bah, c'est de la tranquillité, hein, c'est rapide, et après on est tranquille, on n'a plus de cachet, on n'a plus rien, on continue notre vie tranquille sur autre chose, quoi.
Les personnes cachent encore le fait qu'elles prennent un traitement tous les jours, se débrouillent parfois pour cacher leur boîte de traitement par rapport à leur entourage. Et bien, se dire que finalement, elles vont pouvoir aller, si elles sont éligibles, tous les deux mois à l'hôpital, juste avoir une injection, c'est aussi un vrai progrès, on va dire, social et vis-à-vis de la discrimination.
D'ailleurs, les études continuent encore pour améliorer davantage le service rendu à la personne et les effets. Des associations de molécules nouvelles voient le jour et elles sont testées en vie réelle. C'est le cas du lenacapavir en association avec d'autres qui agissent chacun sur un stade du développement de virus. Alors les résultats des études sont très très encourageantes. Par exemple, pour le lenacapavir, sur les résultats à 52 semaines, donc un an, donc c'était une étude de phase 2, on constate que la combinaison a permis de maintenir la charge virale indétectable pendant 52 semaines, avec une bonne tolérance observée, et cela avec une injection tous les 6 mois.
Donc une seule injection, en fait, ça fait deux injections dans l'année.
Ça fait deux par an, et le virus est contrôlé en fait totalement, et la charge virale ne remonte pas. Alors si les résultats se confirment, cette stratégie à longue durée d'action, donc c'est ce qu'on appelle les traitements long-acting, pourrait devenir le premier traitement complet administré donc deux fois par an, pour les personnes vivant avec le VIH. Et la même logique de traitement à longue durée d'action est aussi appliquée pour les comprimés, qui pourraient être pris de façon encore plus espacée.
Et est-ce que ça existe aussi pour le traitement préventif, c'est-à-dire la PrEP ?
Alors oui, effectivement, le traitement long-acting existe aussi pour la PrEP. Donc la PrEP, je le rappelle, c'est le traitement préventif en fait, par rapport au VIH. Et on a une molécule, le cabotegravir, par exemple, donc était déjà autorisé pour le traitement VIH, mais là, il a été autorisé en 2024 pour le traitement préventif, du coup. Alors, les deux premières injections étaient à faire à 4 semaines d'intervalle, puis toutes les 8 semaines. Et donc, en fait, c'est encore une façon d'améliorer davantage l'observance aussi des personnes.
Donc, ça veut dire, en gros, que voilà, les personnes qui veulent éviter d'avoir le VIH pourrait se faire que des injections, voilà, par exemple, toutes les 4 semaines ou toutes les 8 semaines, et ça marcherait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PrEP, elle est à prendre en comprimé. Donc, soit un comprimé tous les jours dans la prise continue, soit en prise discontinue, on prend les comprimés avant un rapport sexuel et après. Donc, c'est des schémas comme ça. Mais là, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des injections donc tous les 8 semaines, en fait, pour être protégé totalement du VIH en cas d'exposition au VIH. Et d'ailleurs, on a les résultats d'une étude qui s'appelle HPTN-083. Donc c'est une étude californienne qui a été menée sur près de 6400 personnes. Donc c'est quand même
un bel échantillon,
voilà. Et qui montre qu'en PrEP, des injections bimestrielles de cabotegravir seraient plus efficaces que les prises quotidiennes orales à base de Truvada. Et il y a eu 66% d'infections en moins pour ceux prenant les injections. Alors, attention quand même, hein, même si les résultats sont très encourageants, ce nouveau mode de prise est encore à l'étude car des cas de séroconversion ont été observés et aussi des effets indésirables supérieurs à ceux de la PrEP orale. Donc, encore un petit peu de patience pour que tout ça se décante et qu'on arrive à des choses plus intéressantes pour les personnes.
Et est-ce que tu peux juste nous repréciser ce que ça veut dire séroconversion ?
Oui, une séroconversion, c'est quand on devient séropositif.
D'accord. Voilà. Ok.
Donc en fait, il y a des personnes qui sont devenues séropositifs alors qu'ils étaient dans l'étude de traitement injectable.
Donc voilà, il y a encore du travail à faire. Il faut encore patienter. Et il y a quand même toujours beaucoup d'espoir avec la recherche du VIH, autour du VIH.
Mais oui, parce qu'en fait, elle explore différentes pistes en fait, pour s'adapter aux besoins des personnes et aux situations les plus complexes, notamment les résistances au traitement et les échecs thérapeutiques. Et donc, en fait, on a une nouvelle stratégie aussi, qui consiste, par exemple, à rajeunir les lymphocytes CD8+. Alors, en fait, c'est une cellule de l'organisme qui fait partie de tout le système immunitaire. En fait, c'est une réaction immunitaire. Et du coup, c'est un lymphocyte qui est concerné, en fait, enfin, qui intervient dans le processus de contamination, enfin, ou de contrôle du virus. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est de réactiver la réponse immunitaire de la personne en sollicitant ces lymphocytes CD8. Alors, les résultats montrent qu'il y a un renouvellement de ces cellules-là qui suggère une capacité du système immunitaire à générer de nouvelles réponses. Donc, c'est vachement encourageant, du coup, parce qu'on peut relancer, en fait, la machine, entre guillemets, pour lutter contre le VIH.
Et on se pose souvent la question, le vaccin. Alors, on en est où par rapport au vaccin ?
Alors, c'est vrai qu'on entend souvent des news sur la mise au point et l'arrivée imminente surtout, d'un vaccin qui guérirait les personnes séropositives. Alors, c'est souvent quand même des coups d'annonce et il faut se méfier. Mais la recherche avance quand même sur ce point. D'ailleurs, on a un essai vaccinal de phase 1 avec un candidat vaccin qui a été lancé en février 2021 par une équipe française coordonnée par le professeur Yves Lévy. Et ce vaccin repose sur une technologie innovante, l'utilisation d'anticorps monoclonaux conçus pour cibler spécifiquement des cellules du système immunitaire appelées CD40. On parlait des CD8 tout à l'heure, et bien il y a aussi les CD40. Et là, les résultats de cet essai montrent que le vaccin est sûr d'utilisation et qu'il est en capacité d'induire une réponse immunitaire rapide en produisant des anticorps. Les résultats de cette étude-là, pour ce vaccin, a été publié en 2024 dans une revue scientifique.
Donc, affaire à suivre.
Affaire à suivre, effectivement.
Alors, c'est vrai que le vaccin, ça suscite beaucoup d'engouement, et ça se comprend. Même si le chemin est encore long, ça bouge constamment, il y a des innovations, des nouvelles modalités de traitement pour les personnes vivant avec le VIH. En tout cas, j'espère que vous y voyez plus clair et que cela peut vous inciter à soutenir à votre niveau la lutte contre le VIH et la recherche.
Et il y a d'ailleurs un moyen simple, c'est participer financièrement, entre autres bien sûr, en faisant un don au SIDAction ou à AIDE. D'ailleurs, la campagne de don va bientôt s'ouvrir pour le SIDAction. Et vous verrez peut-être des drag queens dans les rues d'Angers d'ici à quelques semaines.
Ouais, c'est le SIDAction.
Le SIDAction. À fait. Voilà, donc je pense que quelques queens vont se balader dans les rues d'Angers avec une petite cagnotte à la main et vous pourrez donner ce que vous voulez pour la lutte contre le VIH.
Super. Et on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en passant par le site radio-g.fr. Vous allez dans la rubrique de l'émission Ondes Positives. Vous pouvez aussi passer par notre Instagram ONDP Radio G ou par mail à ondp.radioG@gmail.com.
On se retrouve dans 15 jours pour continuer d'échanger autour de la santé sexuelle et de la prévention. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Alima.
Merci Florian.
Et d'ici la prochaine émission, vous pouvez retrouver toutes les précédentes en podcast sur le site radio-g.fr, rubrique de l'émission Ondes Positives. Et en attendant,
prenez soin de vous.